L'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot.
Let's make America queer always.
Make America queer always, des nouvelles des États-Unis. Transcontinent queer, des nouvelles d'un bout à l'autre du Canada.
Eh oui, ben oui, c'est en deux chroniques pour le prix d'une. Ben non, on a décidé de joindre nos forces encore une fois, cette fois-ci, pour parler des actualités internationales, parce que c'est la dernière fois qu'on le fait de cette saison. On va recommencer dans la prochaine saison, évidemment. Alors, notre duo, Christophe Gérard, à Méru, dans la très grande banlieue, ou dans l'Oise, je devrais dire, en France, et Chantal Nadeau, qui nous rejoint, elle, de la grande banlieue de Chicago, aux États-Unis. Salut tous les deux!
Bonjour!
Allô, Chantal, t'es en micro. Ah, voilà, allô, Chantal!
Bonjour, et puis je ne suis pas dans la grande banlieue, je suis en plein milieu de Chicago.
Ah, tu es en plein milieu de Chicago maintenant? C'est parce que des fois, ton rejoint, tu es plus loin, ça fait que OK. Parce que Champagne, on ne sait plus trop à Champagne, mais c'est correct. Alors, c'est notre dernier regard international de la saison, mais c'est marqué par de vives tensions sportives et législatives pour la communauté trans, tant en Europe qu'aux États-Unis. Ben, commençons avec le dossier des Jeux olympiques 2028. Alors, ça se profile dans deux ans. Ça devient, on a l'impression que ça devient un nouveau champ de bataille des identités. Qu'est-ce qui change concrètement là, pour les athlètes trans avec la plus récente décision du comité olympique concernant les athlètes trans? Je ne sais pas lequel ou laquelle de vous deux voudrait commencer avec ce qu'on a annoncé au CIO.
Je vais peut-être commencer. En gros, en fait, il y a un changement de dogme par rapport aux personnes trans et aux femmes trans dans le sport. Le CIO a décidé de changer la donne complètement, puisque jusqu'à présent et pendant plus de 10 ans, la règle reposait sur ce qu'on appelle la physiologie modulable. En gros, les instances sportives se concentraient sur le taux de testostérone dans le sang, et l'idée était simple, hein, si une athlète présentait un taux trop élevé, au-delà de 5 nanomoles par litre, elle devait subir un traitement médical, comme par exemple la prise d'une pilule contraceptive, pour abaisser le taux, et cela pendant plusieurs mois, de façon à pouvoir participer à des compétitions sportives. Le CIO change la donne, hein, puisqu'il a décidé que maintenant, on allait vérifier ce qu'on appelle le gène CRY. Alors pour faire simple, ce gène, c'est un peu un interrupteur biologique qui, dans le ventre de la mère et au moment de la grossesse, va déclencher la formation des testicules et par conséquent la production de testostérone chez le fœtus. Donc, désormais, si une athlète possède ce gène ou a un vécu de puberté masculine, la catégorie féminine lui sera complètement fermée. Donc, peu importe son parcours de transition ou ses efforts pour faire baisser ses hormones, on ne juge plus la testostérone qui circule dans le sang. Mais ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qui est inscrit dans les cellules depuis la naissance. C'est le chromosome qui devient le juge de paix en ce qui concerne la catégorie.
Il n'y a pas que là-dedans, je ne sais pas quel de vous deux voudra en parler, mais il n'y a pas une espèce de violation de la vie privée là, des gens quand on fait ce genre de test-là?
Oui, tout à fait. Et ça fait partie du débat aussi concernant le sport professionnel et le sport amateur aux États-Unis. Comme on sait maintenant, aux Jeux olympiques, on admet maintenant les athlètes professionnels. Alors, c'est vraiment aussi important de regarder ce qui se passe aussi au niveau des ligues professionnelles aux États-Unis. Mais c'est une violation de la vie privée, mais en même temps, c'est un décret fédéral ici aux États-Unis, alors ça devient aussi une autre façon. Donc ici, c'est la machine légale qui embarque, si on veut. Alors c'est comme tous les sports aux États-Unis sont à la fois privés et publics. Tout ce qui concerne le public, ça devient aussi des cas qui vont se rendre jusqu'en Cour suprême, pratiquement.
On n'est pas en train de dire que le CIO se plie devant la volonté de l'administration Trump au sujet de la place des femmes trans dans le sport professionnel ou dans le sport amateur?
Ça fait longtemps que c'est pas des choses qui sont nouvelles. Hein, la question le fait que Trump va être président lors des Jeux olympiques de Los Angeles, c'est sûr que je dirais que c'est réciproque, si tu comprends. L'administration Trump profite justement des Jeux olympiques de Los Angeles pour se mettre les doigts dans toute la question des gènes et des chromosomes et de la testostérone et tout ce
Je
qu'on veut.
t'interromps rapidement, on va parler de ses doigts, mais on va pas parler de grabber ou de grab.
OK. Alors voilà. Bon, j'arrête.
Non, 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 c'est parce que je faisais une blague sur ce que M. Trump disait, grabber, bite, on va laisser faire.
Ah oui, c'est ça, oui, c'est ça. Bon, en tout cas.
Il se met les
Mais
mains là aussi, oui.
donc, ça revient à ça aussi, Denis Martin, c'est que c'est la question de violation du public, ça l'a toujours, c'est toujours soumis, c'est toujours en compétition avec le bien commun. Le bien commun, ici étant, comme on sait, le président Trump, dès la première, le jour 1 de sa présidence, issu un décret. Reconnaissant seulement deux sexes biologiques. Et c'est ça qui définit toute l'intervention à la fois politique et à la fois légale aux États-Unis. Donc, il y a seulement deux sexes reconnus qui sont légaux aux États-Unis, c'est F et M.
Mais
Voilà.
en Europe, Christophe, il y a quand même des sociologues là, qui parlent sur cette nouvelle politique puis qui ne voient pas ça d'un très bon œil.
Oui, il y a notamment Madeleine Pape. Alors, elle n'est pas que sociologue, hein, c'est pas qu'une experte puisqu'elle a été championne olympique. Elle a couru notamment contre Castor Semenya. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. En 2009, c'est une femme qui avait des problèmes de dérèglement hormonal, pour schématiser un peu. Et à l'époque, Madeleine Pape, ben, comme elle était déçue d'avoir perdu, elle voulait exclure complètement Semenya. Mais comme elle est devenue sociologue et qu'elle a travaillé sur les questions de genre, ben, son avis a changé. Aujourd'hui, en fait, elle dénonce une vision qui est simpliste de la biologie. Alors, Chantal parlait de la définition des genres au niveau de la loi aux États-Unis, donc hommes et femmes. Elle considère que la nature est un spectre beaucoup plus large et qu'un gène ne définit pas à lui seul la complexité d'un corps ou d'une performance.
Et pourquoi on s'obstine tant là, sur cette question du genre? Pourquoi ne pas classer les athlètes selon leur gabarit ou leur poids, comme dans d'autres disciplines, on peut le faire, hein? Dans la boxe, on y va par le gabarit. Bon, on a quand même les divisions par sexe, mais il y a quand même des catégories. Pourquoi on ne fait pas ça?
C'est une excellente question. Et puis, ben, ici, en tout cas en France, on a une personne qui a la même vision que toi. C'est un boxeur qui s'appelle Mao Villemagne. C'est un athlète de haut niveau hein, qui est en train de bousculer les certitudes du sport français pour définir qui il est. Donc, c'est un homme trans qui fait de la boxe. Il a commencé sa carrière au niveau amateur chez les femmes et il a, depuis le 10 mai 2024, il est considéré comme le premier boxeur trans autorisé à concourir dans la catégorie amateur élite chez les hommes. Et le 2 novembre pardon, 2024, il est monté sur le ring à Marseille pour un combat officiel en moins de 54 kilos contre un boxeur qui s'appelle Evan Ferrandi. Alors le résultat du match, c'est un match nul. Ça signifie beaucoup hein, puisque ça prouve que sur le ring, à poids égal et à niveau égal, la compétition est parfaitement équilibrée et cela de manière indépendante de son parcours de transition. Et alors il va dans ton sens. Parce que pour lui, en fait, ben, comme tu le disais, les sports de combat sont plus par catégorie de poids que de genre. Et en gros, ben, un boxeur comme lui de 54 kilos ne va pas, va pas se combattre un poids lourd de 90 kilos parce que c'est cette différence de poids qui va générer la différence. Et prends un autre exemple qui est celui du roller derby, qui est une autre compétition sportive dans laquelle le genre n'entre pas dans la définition. On est là aussi sur des normes différentes. Donc c'est ce qui lui semble intéressant.
Puis en même temps, Chantal, il y a des athlètes là, qui se plaignent qu'on utilise leur image pour justifier l'exclusion des femmes trans.
Oui, mais je voudrais revenir
Ah, oui.
sur un texte d'opinion assassin qui a été écrit par la star de basketball, joueuse étoile de WNBA et représentante des joueuses de cette ligue professionnelle qui dénonce la position du CEO à ce niveau-là. Et je cite, je veux la citer ici. Elle dit que en 15 ans de basketball compétitif, j'ai joué avec des personnes transgenres ou avec des variances de genre. Et je n'ai jamais, jamais été désavantagée. Et ce qu'elle continue aussi, c'est quelqu'un qui est très impliqué aussi dans Black Lives Matter, oui, et qui parle justement que l'attention qu'on porte à la question transgenre dans les sports, entre autres professionnels et de haut niveau de compétition, ça obscure complètement toutes les autres questions d'inégalité sociale et de salaire et d'assurance médicale, des droits justement de ces athlètes-là, qui sont les cachets qui sont beaucoup plus humbles, si on dirait, si je veux être fine ici, là, beaucoup plus humbles que ceux des hommes. Alors, elle se dit qu'on s'intéresse particulièrement aux transgenres, aux personnes transgenres dans les sports de compétition de femmes, et ça permet justement d'éviter toutes les autres questions qui affectent directement le jeu de ces femmes-là et les questions de santé et de sécurité. Et je veux mentionner ici en passant que le WNBA est majoritairement composé de femmes noires et de couleur. Alors, j'ai pas besoin. Dans le contexte américain, ça dit tout, hein?
Et j'aimerais peut-être poser la question. Christophe a mentionné la présence d'un homme trans dans le sport de la boxe, mais j'ai l'impression que ce débat-là est surtout vis-à-vis les femmes trans. On ne parle pas autant des hommes trans et on ne semble pas trouver qu'il y a autant de problèmes avec leur présence. Est-ce que je me trompe, Chantal?
Non, bien, ici, gros scoop. Le 4 mai, ça c'est partout dans les journaux aux États-Unis, ça fait aussi la manchette au Canada et ailleurs. Je veux citer le cas de Isaac Ransom, qui est un gardien de but qui joue pour une équipe féminine qui a signé son premier contrat semi-professionnel, pardon, le Minnesota Aurora FC. Et il joue pour une ligue, cette ligue semi-professionnelle. Et ce que je veux... Deux choses que je veux mentionner ici, c'est que c'est comme un retour de l'ascenseur contre les politiques du gouvernement Trump, parce que Isaac est né femme et il est devenu transgenre, un homme transgenre. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est sur cet aspect-là que l'équipe professionnelle qui l'a engagé, qui lui a offert un contrat, a joué. C'est dans le sens qu'il respecte quand même la logique du gouvernement Trump. Non, parce qu'il est identifié comme femme, alors il peut jouer dans une ligue professionnelle femme. Et l'autre truc qui est intéressant aussi, c'est que Ransom, c'est vraiment un gardien de but qui a gagné plein de trophées, de prix. C'est vraiment quelqu'un de haut niveau. Et ce qu'il explique aussi, c'est que il se sent beaucoup plus en sécurité de jouer avec des femmes. Il se fait moins harcelé que quand il jouait avec des équipes de compétition d'hommes, surtout au niveau collégial. Il vient du milieu collégial. Alors ça aussi, c'est un élément intéressant à amener. Il est entièrement supporté par ses coéquipières et par l'administration. Et en passant, juste une dernière petite note, Denis Martin, si tu me permets. Aurora, ou Minnesota, c'est une ville de 2000 personnes. Yeah. Alors voilà. Alors, tu sais, l'idée que les grands centres, c'est là où ça se passe, hein, faut le faire. Donc, j'ai vraiment mentionné ça.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Bon, on va passer maintenant vers les droits civiques. Christophe, le Parlement européen a-t-il enfin tranché sur les questions de conversion, de thérapie de conversion?
Je te dirais oui, mais avec de grosses nuances juridiques et politiques qu'il faut décrypter. En gros, en fait, le 29 avril dernier, le Parlement européen, réuni en séance plénière, a adopté ce qu'on appelle une résolution sur les droits fondamentaux. Alors, c'est important de le préciser, c'est qu'une résolution, c'est pas encore une loi directement applicable, mais c'est une avancée majeure, hein, puisque le Parlement demande officiellement à la Commission européenne de proposer une législation contraignante. L'objectif ultime et historique, c'est inscrire les thérapies de conversion dans la liste des eurocrimes, au même titre que le terrorisme, par exemple, ou la traite des êtres humains. Alors, ça permettrait d'harmoniser en fait les sanctions dans toute l'Union européenne, là où aujourd'hui, seul un seul pays, et j'ai envie de dire cocorico, hein, puisque c'est la France, qui a décidé d'une loi le 31 janvier 2022, et qui est le seul pays à l'heure actuelle dans l'Union européenne à protéger réellement les citoyens. Il faut savoir que si les députés européens ont bougé, ce n'est pas par hasard, hein, puisque il y a eu une pétition qui a été lancée au niveau européen. C'est une initiative citoyenne européenne qui s'est clôturée en mai 2025 avec un score massif d'environ 1 300 000 signatures, ce qui est énorme. Et ce qui est frappant, là aussi, pour une fois, je vais faire cocorico et je vais dire nous autres en France. La plus grosse partie, hein, des signataires, 670 000 personnes, ben, ce sont les Français. Donc c'est un débat qui n'est plus un débat de niche, c'est une exigence démocratique claire. Même le Conseil de l'Europe, j'en avais parlé, hein, a ouvert la voie en janvier dernier avec une résolution de la sorte, adoptée, avec une large majorité.
Une large majorité qui exclut.
Eh ben, on s'en doute, hein, je vais en parler une fois de plus, Jordan Bardella et le Rassemblement national, mais pas que. En ce qui concerne le Rassemblement national, ils ont choisi l'abstention. C'est une politique qui est cohérente avec les décisions qu'ils prennent dans tous les votes européens concernant les droits LGBTQIA+, depuis 2021. En fait, ils restent au milieu du gué. Et donc, ils veulent trahir une partie des électeurs. Je rappelle, et je l'avais déjà dit, hein, que 27% des électeurs LGBT se disent prêts à voter pour le Rassemblement national aux prochaines élections présidentielles qui auront lieu l'année prochaine, à peu près cette période-ci. Mais ce n'est pas les seuls, hein, parce qu'on retrouve également des élus de ce qu'on appelle les Républicains chez nous. Alors, c'est peut-être des noms qui sont moins parlants pour vous, Nadine Moreno. Et François-Xavier Bellamy, donc ils font partie, hein, du parti de.
Le parti des abstentionnistes.
Alors eux, ils ont voté contre,
Ils ont
c'est
voté
encore
contre, d'accord,
pire.
ok.
Et en fait, ben, ce qu'ils voient en fait dans cette interdiction, ben, ce qu'ils voient en fait, c'est une liberté, une atteinte, pardon, à la liberté religieuse ou parentale, un argument que bien évidemment que les associations de victimes balayent d'un revers de la main. Quand on parle de thérapie de conversion, on parle parfois de prière, mais ça va beaucoup plus loin puisqu'il y a des thérapies de conversion qui sont pseudo-scientifiques et il peut y avoir des violences faites.
Et je rappelle que l'ONU décrit les thérapies de conversion comme étant de la torture. Il faut que ça soit clair, selon l'ONU, c'est ça. Chantal, aux États-Unis, il y a tout un autre son de cloche là-bas, là.
Oui, ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que, bon, si vous, pour la petite histoire, dès le départ de sa présidence, comme vous vous rappelez, le 20 janvier 2025, il était très, très, très occupé, notre président. Alors, il a décrété qu'il voulait démanteler carrément le département d'éducation. Mais pour une présidence qui veut démanteler l'éducation, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt et d'intervention dans le milieu éducationnel. Donc, l'éducation, c'est le cheval de bataille favori de l'administration Trump. Et ce qui se passe en ce moment, c'est que ça vient tout juste de sortir, c'est que le département de justice américain a décidé de faire enquête, ce qu'ils appellent l'idéologie de genre, dans 36 districts scolaires de l'Illinois. L'Illinois, comme vous le savez très bien, c'est l'État qui est gouverné par Pritzker, qui est aussi un sérieux candidat à la présidence. Et alors voilà, alors il y a beaucoup d'intérêt pour l'Illinois. On a été comme sous le radar depuis un an, mais là, ça revient d'une façon très forte. Alors ce qu'on veut regardez, c'est à quel point justement la propagande LGBTQ, parce que l'on sort aussi de la question de transgenre, c'est on veut voir comment les districts scolaires font la propagande
De la propagande, c'est incroyable comme mot, hein?
non, c'est exactement ça. Alors ça touche les écoles publiques, ça touche les collèges. Et ça touche professionnel, et ça touche aussi les universités. Et c'est partout, là. Je veux dire, c'est vraiment incroyable. Alors, ce qu'on essaie, c'est qu'ils vont dire qu'ils vont évaluer. Et ce qu'il faut comprendre aux États-Unis, c'est que même les écoles privées sont hautement financées par les fonds fédéraux. Alors, c'est une façon, encore une fois, de faire du chantage, de revoir les curriculums, d'intervenir. Donc, on prend le modèle du Texas, comme si pour ceux qui ont suivi l'actualité au Texas, qu'il y a des universités qui interdisent maintenant les sujets, les thèses de doctorat, les maîtrises ou même les cours mentionnant LGBTQ. Plus. Alors, c'est ça qui va se passer, c'est qu'on va faire, du ménage là-dedans. Et c'est quand même, c'est vraiment un truc très, très fort parce que qu'est-ce qui risque de se passer, c'est qu'il va y avoir des coupures de fonds, hein, du financement qui va être très, très sévère. Donc, ça va vraiment toucher et ça va réorienter aussi toute la question curriculaire dans les écoles de l'Illinois. Et ça va faire boule de neige.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Bon, on se l'est promis depuis quelque temps. On va terminer nos chroniques aujourd'hui avec un petit côté d'espoir ou de la bonne nouvelle. Commençons par Chantal. Il y a une lueur d'espoir du côté des États-Unis.
Oui, bon, je reviens encore. Je pensais jamais que j'allais dire ça dans toute ma vie, mais le côté mercantile, professionnel du sport va ouvrir des portes. Et ça commence avec Isaac Cranson, le gardien de but de soccer qui a signé pour Minnesota Aurora FC.
Qui est un
Et
homme
aussi, il y
trans,
a
ça faut le
aussi
dire,
le
oui.
Oui, et puis il y a aussi la powerlifteuse JC Cooper qui poursuit sa fédération pour ne pas pouvoir, qui est transgenre, qui poursuit sa fédération pour ne pas pouvoir compétitionner avec les femmes. C'est assez intéressant de voir ça. Et comme j'avais prédit ça dans nos discussions précédentes, Denis Martin, que le sport professionnel allait changer peut-être le visage de la question transgenre et LGBTQ aux États-Unis.
On est
Alors,
en train de dire que les athlètes transgenres et les athlètes queer, c'est payant?
oui, c'est payant. Et ils ont des grandes gueules. Alors voilà.
Ben voilà, alors finalement, ce serait peut-être l'argent qui va changer la donne. En Europe, Christophe?
Moi, je voulais mettre en lumière une personnalité dont on parle beaucoup ici en France depuis la fin de l'année dernière et le début, depuis janvier. Elle s'appelle Julie Tétart. C'est une basketteuse qui a un talent pur et qui fait voler tous les préjugés biologiques dans le sport. Elle joue donc au Monaco et elle a des résultats qui sont assez étonnants. En moyenne, alors je ne suis pas un spécialiste du basket, peut-être que ça vous parlera plus qu'à moi. En moyenne, elle fait 21 points et 20 rebonds par match, ce qui la met dans la catégorie supérieure en ce qui concerne les basketteuses. C'est une femme trans, elle le dit elle-même, elle le raconte, hein, elle paye très cher, sur chaque match, elle entend des insultes, des sifflets, de l'agressivité, mais elle est reconnue au sein de la fédération de basket. C'est une fille qui a énormément d'ambition. Elle ne veut pas continuer à jouer juste avec Monaco, mais elle vise l'Euroligue et on lui souhaite vraiment d'y arriver parce que c'est quelqu'un qui mérite et je pense qu'on entendra encore parler de cette jeune femme qui a 33 ans, encore de longues années.
Alors, les débats, les discussions vont continuer sur l'exclusion ou l'inclusion des personnes trans dans les sports, tant amateurs que professionnels, puis ça va culminer, hein, en 2028 avec les Jeux olympiques. Les thérapies de conversion, ça aussi, il y a encore des débats qui se poursuivent. Il y a des bonnes nouvelles et on a le temps de faire un peu de prospective tous les deux. À notre tour à l'automne, qu'est-ce qu'il faudra surveiller? Chantal, je commence par toi parce qu'il y a des élections qui s'en viennent aux États-Unis.
Oui, les élections mi-mandat. Alors, un des grands débats en ce moment dans les clans démocrates qui sont tout à fait désorganisés, je le rappelle, et puis on voit pas de. C'est
Mais ils sont en
vraiment.
avance dans les sondages, mais dès qu'ils sont organisés comme ça se peut pas, oui.
Oui, non, mais ça, être en avance dans les sondages puis être aux urnes, c'est autre chose, hein? Alors, comme on sait, la toute participation aux élections fédérales ici aux États-Unis, c'est très bas. C'est parmi les plus bas dans les pays démocratiques. J'utilise ça en guillemets, le mot démocratique. Alors, les élections de mi-mandat, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je sais que le débat sur les LGBTQ et trans fait fureur chez les démocrates. C'est très divisé. Alors, c'est à suivre et
Ouais.
en espérant que on va aussi avoir des gens qui vont être assez forts pour tenir leur bout et pas juste s'écraser devant la principauté démocrate. J'ai parlé des Clinton, Obama et compagnie. Voilà,
Ben
j'ai
voilà, on
dit
peut
ce que
peut-être
j'avais.
espérer qu'il y aura peut-être un mouvement du genre Mamdani, mais à l'échelle nationale. Mamdani, le nouveau maire de New York, mais on verra bien. Je vais lancer la balle à Christophe. Chez vous, il y a des élections aussi qui s'en viennent.
Ouais, et au niveau européen également, hein, notamment en Allemagne en septembre, le chancelier dont le nom m'échappe est en très mauvaise posture. Il y a le parti d'extrême droite qui est vraiment au devant de la scène et ils ont mis au point tout un programme, leur programme électoral, qui parle bien évidemment de loi anti-LGBT. Et nous en France, et ça peut être intéressant, on a les présidentielles qui arrivent. Et l'association Stop Homophobie a mis en place un rapport qui est sorti aujourd'hui, qui a été publié aujourd'hui, concernant le fait d'être LGBT, comment ça se passe pour les LGBT ici en France. Ils se sont inspirés des mesures qui ont été prises par l'association ILGA Europe, en les mettant avec nos spécificités législatives. C'est très intéressant, je vais en parler, je pense, et ça peut être intéressant de voir de quelle manière les candidats à l'élection présidentielle ici en France vont se lancer dans cette partie qui est très attendue pour nous, mais pas que, parce que je pense que ça peut avoir un impact très très fort.
Bien, merci beaucoup, Christophe Gérard, à Méru, dans la Grande Oise ou dans la région
Tu
d'Oise.
peux dire l'Oise ou alors tu peux dire également les Hauts-de-France, puisque j'appartiens à la région des Hauts-de-France.
Les Hauts-de-France. Et puis, en plein cœur de Chicago, en Illinois, Chantal Nadeau, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Et puis, bien, on espère pouvoir se revoir donc et se reparler dans la prochaine saison. Merci à tous les deux. Avec
Merci Denis
plaisir. Au
Martin.
revoir.
Bye-bye, Christophe.
Au revoir, Chantal.
Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heurciel@gmail.com, heurciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DMChabotAuteur et sur LinkedIn, Denis trait d'union, Martin trait d'union, Chabot.
Après la pause, on parle du 500e numéro de Fugue et Queer Côté Geek.